Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver chaque samedi matin de 9h15 à 10h sur RTL. Je vous espère en forme et préservé des tumultes du monde. On va encore apprendre plein de choses aujourd'hui. Soyez prêts en avant-guingant sommaire. Avec l'explosion du e-commerce, plus de 500 millions de colis ont été livrés en France l'année dernière. Cette augmentation des livraisons voit aussi une augmentation des couacs et des ratés. Pourquoi tant de problèmes et quels sont nos recours quand le colis est perdu, endommagé ou volé? On fait le point avec Lyon Joëtchard, juriste au Centre européen des consommateurs. Ils apportent de la saveur à nos plats, mais sait-on vraiment ce que les bouillons cubes et autres fonds de veau industriels contiennent? Réponse édifiante avec Patricia Tchiropoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs qui a testé une trentaine de produits. Ils sont bons pour la santé et participent à la diversité de notre alimentation, mais n'ont pourtant pas une cote d'enfer. Comment nous faire aimer les fameux brocolis? C'est la mission du jour de Ligori Lecomte, chef du site cuisineaz.com et auteur culinaire.
Tiens, voilà le facteur.
Tiens, voilà un juriste au Centre européen des consommateurs. Bonjour Lyon Joëtchard.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il existe beaucoup de transporteurs qui gèrent la livraison de nos colis en France?
Alors oui, on a beaucoup, beaucoup en France, beaucoup en Europe. Et effectivement, il peut y avoir des couacs. Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs millions d'achats qui se passent en ligne en ce moment. Et bien sûr, il faut livrer des commandes et de temps en temps, il peut y avoir un problème. Mais il ne faut pas vraiment se soucier de ça, parce qu'en tant que consommateur, le code de la consommation nous protège bien.
Alors, c'est ce que l'on va voir ensemble. Mais on a quand même le sentiment qu'il existe de nombreux problèmes liés à la livraison. C'est un fait, ça, ou est-ce qu'on exagère en tant que consommateur?
Alors nous, personnellement, on a eu plusieurs milliers de demandes concernant des problèmes dans les livraisons. Alors il y a des cas typiques de retard de livraison, de colis perdus, ou alors de non-livraison tout court. Et là, bien sûr, il y a des recours, hein. il y a des choix, enfin, il y a des possibilités pour le consommateur, d'être remboursé ou alors d'arriver à nouveau à une nouvelle livraison.
Hein. Mais on a le sentiment que ça prend du temps quand même, on va y revenir. En fait, on doit considérer qu'il y a combien de temps pour une livraison suite à un achat?
Alors là, ça dépend. Là, il faut regarder effectivement chez le vendeur, se renseigner de cas nécessaires, regarder sur la facture ou sur le bon de commande, s'il y a un délai de livraison qui est indiqué.
D'accord.
S'il n'y en a pas, alors là, le code de la consommation, il détermine à la place du vendeur, en fait, que c'est 30 jours au maximum.
D'accord, ok. Donc si je ne vois rien, je sais que j'en ai pour un mois d'attente au maximum, hein, c'est ça?
C'est ça.
D'accord. Quel recours a-t-on, justement, si le produit n'est pas livré à la date indiquée?
Alors là, il va falloir être très attentionné, enfin, il va falloir vraiment faire attention. Il va falloir contacter le professionnel dès que possible, enfin, dès que le délai a été dépassé, par écrit.
Il va,
alors là, il vaut toujours mieux garder des copies d'ailleurs de ce qu'on envoie et envoyer cet écrit. Alors, on recommande par lettre recommandée avec accusé de réception. Sinon aussi par email avec accusé de réception.
D'accord, ok. Et s'il ne me répond pas, qu'est-ce que je fais? J'insiste?
Alors là, c'est simple. En fait, dans l'écrit, ce que vous allez fixer, c'est déjà exposer le problème. Hein. Ça veut dire, je n'ai pas été livré dans les délais. Et fixer un nouveau délai raisonnable pour que le professionnel puisse avoir la chance de vous livrer. Alors là, si là, il ne respecte pas le nouveau délai raisonnable que vous avez fixé, disons par exemple 10 jours, à ce moment-là, vous pouvez à nouveau le contacter encore une fois, par lettre recommandée, on recommande ça clairement. D'accord. Pour annuler la vente, en fait, tout simplement.
Mais tout ça, ça nous coûte de l'argent, quoi. Voilà, c'est ça. Tout ça, ça nous coûte de l'argent. Les envois, c'est quand même une succession de, pardon de le dire comme ça, mais d'emmerdements pour récupérer, finalement, la livraison. Si je reçois un colis qui est livré, effectivement, mais qui est abîmé, qu'est-ce que je fais?
Alors là, il y a deux cas de figure qui se présentent à vous. Hein. Donc, si le colis, en tant que tel, a déjà des dégâts visibles à l'extérieur, alors là, il vaut mieux déjà refuser la livraison, s'il livrerait encore là, hein. Sinon, s'il est parti trop vite, bon, en principe, il est quand même censé vous donner le temps un peu de vérifier l'état du colis. Bah, sinon, vous pouvez, s'il est déjà parti, prendre le colis chez vous, prendre des photos s'il y a déjà des dégâts à l'extérieur. S'il n'y en a pas à l'extérieur, vous pouvez même le déballer en filmant le déballage. Et d'accord. Si vous voyez qu'il y a des dégâts à l'intérieur, il va falloir immédiatement contacter, bien évidemment, le vendeur, mais aussi le transporteur, si possible, encore une fois, par lettre recommandée avec accusé de réception, sinon par email avec accusé de réception, pour signaler le problème, le défaut.
D'accord. Et voilà. Merci les smartphones, quoi, hein, parce qu'il y a quelques temps, on ne pouvait pas faire tout ça. Aujourd'hui, donc, on a bien compris, c'est laisser une trace, finalement, de ce que l'on découvre au fur et à mesure. Si je commande un produit, mais que celui que je reçois n'est pas le bon, évidemment, je vais le réclamer, je vais expliquer que je ne veux pas de ces bottes parce que j'avais réclamé des tongs. Néanmoins, le retour, il est à la charge du livreur. On est bien d'accord.
Alors, il n'est pas à la charge du livreur en tant que tel, c'est plutôt à la charge du vendeur. Hein. Le livreur, ce n'est qu'un intermédiaire, il n'a pas vraiment de responsabilité à ce niveau-là. C'est le vendeur qui doit prendre en charge les frais de retour. Parce qu'il s'agit d'un défaut de conformité, voilà, vous avez commandé quelque chose et autre chose est arrivé.
Donc, trace de mon paiement, du colis que je renvoie, et je demande donc le remboursement au vendeur. Si mon produit est bien le bon, c'est-à-dire mes tongs, mais qu'en fait, quand je les essaye, elles ne me plaisent pas, est-ce que le retour est aussi à la charge du vendeur ?
Alors là, c'est un autre cas de figure. Il ne s'agit plus d'un défaut de conformité, mais simplement d'un objet qui ne vous plaît pas. Ben, vous avez le droit de l'essayer, et s'il ne vous plaît pas, ben, vous avez le droit de le renvoyer chez le vendeur, mais dans un délai de 14 jours suite à la livraison. Okay. Il s'agit du droit de rétractation, et voilà. Mais dans ce cas-ci, malheureusement, les frais de retour sont en principe à la charge du consommateur.
D'accord. Et si, mettons, qu'elles se perdent en route, que mon colis, justement envoyé, n'arrive jamais, qu'est-ce qui se passe ?
Alors là, il y a deux cas de figure, encore une fois, c'est un peu complexe, excusez-moi. Mais alors c'est simple, en vérité c'est assez simple. Si le retour, il est prévu, totalement géré par le vendeur, c'est par exemple, il envoie un livreur chez vous récupérer le colis, alors le retour, il est sous la responsabilité du vendeur. Si le colis se perd à ce moment-là, c'est sous sa responsabilité. En revanche, si c'est vous qui faites les démarches, que vous rendez à la poste pour envoyer le colis, alors là, s'il y a un pépin durant le renvoi, ce sera sous votre responsabilité.
Oui,
et c'est pour ça qu'on recommande d'ailleurs, s'il s'agit d'objets de valeur, de prendre une assurance en plus.
D'accord.
À ce moment-là.
Ok. Moi, j'ai déjà eu ce cas de figure. Hein. J'avais commandé quelque chose qu'on m'a indiqué comme livré, alors que je ne l'ai jamais reçu. Là, c'est quand même un sacré bazar.
Ah bah oui, là c'est très problématique, effectivement, mais juridiquement parlant, il s'agit tout simplement d'une non-livraison. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir faire exactement la même chose que ce que j'ai dit avant, comme dans un cas de retard. Il va falloir contacter le vendeur, le mettre en demeure et lui fixer un nouveau délai de livraison supplémentaire, de 10 jours par exemple, comme déjà dit, évoqué avant. Et s'il ne s'exécute pas, bah à ce moment-là, vous pouvez à nouveau le contacter et annuler la vente. En vérité, le vendeur, il est censé pouvoir apporter la preuve dure que le bien a été livré, c'est-à-dire remis dans vos mains. Et le seul moyen de prouver ça, c'est par exemple en montrant le bon de livraison, l'accusé de réception signé par la main du destinataire. Et si ce n'est pas le cas, ça n'est pas une preuve suffisante.
C'est une galère parce que moi, en plus, il y avait une signature, une imitation de ma signature, et ça n'était pas moi. Donc effectivement, après, ça devient un gros bazar. Justement, vous parliez de remise en main propre. Mon voisin, il peut réceptionner mon colis en mon absence ?
Alors oui, c'est une possibilité, mais ça doit être déterminé au moment de la vente. Si vous désignez votre voisin, une autre personne ou même une entreprise par exemple en tant que destinataire, il n'y a pas de problème, mais il faut que ce soit désigné déjà au moment de la vente.
D'accord. Donc ça veut dire que je ne peux pas le matin même avoir une urgence et mettre un panneau, un post-it sur la porte de mon appartement en disant merci d'aller chez la voisine du dessous.
C'est
de ma responsabilité dans ces cas-là, quoi.
Ouais, exactement. Mais là, c'est toujours un peu problématique. C'est vrai que très souvent, les livreurs, ils déposent les colis, chez un voisin, ou parfois même dans des magasins affiliés, et qui prennent en charge les colis. Mais normalement, ça, c'est sous la responsabilité du vendeur. S'il y a une perte à ce moment-là, c'est le vendeur qui est responsable.
Alors, on se pose pas mal de questions sur justement les achats en ligne à un professionnel européen à l'étranger. On va se retrouver dans un instant. On a encore évidemment des questions à vous poser. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite de Nous Voilà Bien.
Merci à vous.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Merci d'être avec nous tous les samedis matins pour votre magazine de consommation. Nous voilà bien. Savez-vous que les bouillons cubes ne sont pas ce qu'ils paraissent ? Patricia Chiropoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs, va nous livrer les résultats d'une enquête édifiante dans un instant. Vous aimez les brocolis ? Non, c'est pas bon les brocolis ? Non mais dites donc, vous allez écouter Ligoré Lecomte et vous n'aurez envie que d'une chose, c'est de les cuisiner. Mais pour l'instant, on s'occupe justement de nos livraisons.
attendu.
Alors, franchement, c'est vrai que cette chanson de Vianney pourrait effectivement être écrite pour les livreurs que l'on attend. Parfois, on y mettait pas là, mettez où ? Parfois, on ne reçoit pas notre colis. Parfois, le colis est endommagé. Parfois, ça n'est pas véritablement ce que je voulais. Bon, bref, donc c'est toujours compliqué finalement. Et on se demande s'il ne vaut pas mieux aller directement chez son commerçant pour acheter des produits, être bien sûr de ce que l'on fait. Néanmoins, c'est devenu quand même une grosse tendance et ça nous simplifie la vie quand ça se passe bien. Lyon Joëtte Char et juriste au Centre européen de consommateurs. On a encore des questions, évidemment, à vous poser. Merci d'être avec nous, Lyon Joëtte.
Oui, rebonjour.
Si, rebonjour. Si j'achète en ligne un professionnel européen, ça a été le cas de pas mal de personnes qui nous ont laissé des messages. Est-ce que lui peut refuser de me livrer en France ?
Alors effectivement, c'est une possibilité. On peut croire qu'après, la législation sur le géoblocage, qu'il est maintenant possible effectivement d'acheter comme un national du pays en question, sans distinction particulière, chez le professionnel étranger, enfin en Europe. Mais malheureusement, oui, on peut le faire, effectivement, on peut acheter chez lui, mais il n'est en aucunement obligé de livrer en dehors de son pays.
D'accord. Pardonnez-moi, mais ce qu'on appelle le géoblocage, ça date de 2018, c'est ça ? Et on peut acheter des biens et des services à un professionnel basé dans un autre pays de l'Union européenne, c'est ça ?
C'est ça.
Dans les mêmes conditions, comme si finalement je vivais dans ce pays.
Exactement, comme si vous étiez une résidente normale du pays en question.
Voilà, et acheter, ça ne veut pas dire livrer en fait, c'est ça que vous nous expliquez.
Exactement, il y a une distinction à ce niveau-là. Et dans un tel cas de figure, si vous achetez effectivement, bon, c'est un cas assez rare, mais ça peut quand même arriver. Ouais. Si vous voulez à tout prix acheter ce bien-là qui a un prix intéressant, par exemple, il va falloir que vous organisiez la livraison vous-même, ou alors que vous allez chercher vous-même la marchandise en question.
Ouais, sympa, d'accord. Donc ça peut effectivement à un moment donné me coûter bonbon en fonction du pays que je vise. Et en plus, ouais, en ce moment, il faut se méfier parce qu'évidemment, les frontières ne sont pas ouvertes comme d'habitude. Hein. Donc attention et méfiance à ce sujet. Vous vouliez rajouter quelque chose ?
Effectivement, vu les circonstances particulières dues à la pandémie de la Covid-19, il y a effectivement encore plus de problèmes maintenant dans les livraisons transfrontalières. Il faut effectivement parfois un peu prendre son mal en patience. Si la livraison n'arrive pas dans les délais, vous avez des moyens, vous pouvez contacter le vendeur. Lui donner un délai supplémentaire pour qu'il puisse livrer, mais s'il n'y arrive pas, il va falloir encore lui envoyer un nouveau courrier pour annuler la vente.
D'accord. Donc, encore quelques galères. On a de plus en plus d'achats entre particuliers, c'est une nouvelle façon maintenant de consommer. Si j'ai un problème lors d'une livraison avec un particulier, c'est pas une vente véritablement professionnelle, quels sont mes recours ?
Oui, effectivement, dans ce cas de figure-là, vous n'êtes pas un consommateur parce que vous n'avez rien acheté chez un vendeur professionnel. Mais dans ce cas de figure-là, en fait, vous êtes pleinement responsable. L'expéditeur est pleinement responsable en cas de pépin lors de la livraison. C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours effectivement envoyer les colis en recommandé. Ouais. Et en plus, avec une assurance en plus, il s'agit maintenant d'un objet de valeur. Hein.
D'accord, ok. Donc une vraie traçabilité, encore plus quand il s'agit donc des particuliers. Je vous remercie vraiment, hein, Lyon Joëtte Char, d'avoir passé ce moment avec nous. C'était très clair. Vous aimez les bouillons cubes ? Je vous drague pas. Hein, Bonjour, Lyon Joëtte, tu aimes les bouillons cubes ?
Non, mais c'est de temps en temps, en hiver, pourquoi pas.
Alors, figurez-vous que vous allez apprendre plein de choses. Restez à notre écoute et passez une bonne fin de journée à l'écoute d'RTL. Merci beaucoup, Lyon Joëtte Char. À bientôt sur RTL. Vous reconnaissez tous hein, le générique d'enquête exclusive sur M6. Pourquoi ? Parce que Patricia Chiropoulos a mené l'enquête pour 60 millions de consommateurs. Bonjour Patricia, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Les bouillons cubes, dites-moi, là, on a entendu Lyon Joëtte Char qui dit « Bah oui, moi j'en prends l'hiver. Moi, c'est mon grand dada. » Et là, j'avoue que je suis traumatisée par votre étude et en même temps, enfin éclairée. Les bouillons cubes, le fond de veau, le fumet de poisson, c'est pratique, ça apporte du goût à nos préparations. Mais en fait, on ne connaît pas leur composition.
Non, alors on se doute quand même bien que ce sont des produits qui ne sont pas très naturels, mais c'est vrai qu'on ignore souvent la composition alors qu'il suffit il suffit d'ailleurs toujours de retourner l'emballage et nous avons là la liste des ingrédients.
Ah oui, mais vous êtes là pour regarder justement.
Et oui, voilà, il faut la scruter, il faut la comprendre, exactement. Oui.
Non mais les résultats de votre essai vous ont surprise, vous Patricia, parce que c'est édifiant.
Oui, alors oui et non, il y a quelques bonnes surprises tout de même. On va dire que les fabricants, certains ont fait des efforts, par exemple, sur l'huile de palme, mais sinon, alors, ça reste toujours extrêmement salé. C'est un des gros points noirs de ces produits et puis des additifs, évidemment.
C'est tout petit, un bouillon cube. C'est rien. C'est le petit truc qu'on met dans la casserole avant de cuisiner des pâtes ou autre chose. On s'imagine pas que ça peut être nocif pour notre santé.
Alors, nocif, oui. Alors, c'est vrai que c'est tout petit, mais c'est une composition qui est totalement artificielle et avec des ingrédients qui ne sont pas forcément recommandables, hein. Et le sel, des matières grasses, des sucres. Donc, alors, un bouillon qui est dilué dans quelques centaines de millilitres, ça n'a pas trop d'impact sur la santé si on l'utilise de temps en temps. Mais c'est vrai que si vous l'utilisez tous les jours en cuisine parce que c'est tellement pratique et ça donne du goût, là, ça peut effectivement être nocif pour la santé.
D'accord. Donc, parce que trop de sel dans un tout petit bouillon, trop de gras, bon, ça, c'est l'huile de palme. Que ce soit la viande ou aux légumes, c'est un peu le même combat?
Alors, on va dire que les bouillons aux légumes s'en sortent un petit peu mieux, peut-être, sur le sel et sur les additifs. Mais effectivement, le sel, c'est souvent le premier ingrédient, parce que, évidemment, ça donne du goût. Mais à part les quelques références sans sel qu'il peut y avoir en rayon, parfois, une simple portion apporte près d'un tiers de l'apport recommandé par jour. On recommande 5 grammes par jour, enfin c'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et parfois une portion apporte près d'un tiers de cette... Donc vous voyez, c'est énorme, hein, un bouillon, on ne s'en rend pas compte. Parfois, on va même resaler en plus les autres plats. Et alors, on a vite atteint cette dose. Alors, si vous faites ça tous les jours, effectivement, là, pour notamment les maladies cardiovasculaires, ce n'est pas recommandable.
Trop salé, trop gras, mais aussi trop sucré.
Alors là, oui, alors là, c'était une surprise, hein, et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de produits d'épicerie salée, comme on dit, c'est qu'il y a des sucres. Pourquoi? Parce que ça améliore aussi le goût, et puis en plus, ce sucre, ça va aider à améliorer les grains, en fait, dans les bouillons cubes. Donc les fabricants l'ajoutent pour ça, mais on peut trouver du sucre blanc, hein, mais aussi des sirops de glucose, qui sont des sucres industriels, et parfois, on peut en trouver deux ou trois, et même, l'enseignement de notre étude, c'est même dans des bouillons bio. Donc, bio ou pas...
J'allais vous poser la question. Bio ou pas bio, même combat.
Eh bien, oui. Alors, pour les additifs, un peu moins, parce que les bio, donc, déjà, sont plus restreints en termes d'additifs. Mais sinon, on a vu que l'huile de palme, par exemple, on a pu retrouver dans des bouillons bio, ainsi que des sucres, ainsi que du sel. Donc, effectivement, pas beaucoup de différence, non, malheureusement.
Écoutez, on va se retrouver dans un instant parce qu'évidemment, votre enquête est intéressante et on en fait profiter tous nos auditeurs, Patricia Chiropoulos. Ensuite, on retrouvera Ligori Lecomte parce qu'il est chef. Il va nous parler du brocoli. Donc déjà, on sait qu'il faut peut-être éviter de cuisiner le brocoli avec des bouillons cubes hein, parce qu'on peut être tenté d'en mettre partout. On se retrouve dans un instant pour la suite de Nous voilà bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. On essaye de vous diffuser de la bonne humeur et des bons conseils sur RTL dans Nous voilà bien. Les brocolis, c'est pas bon, hein? Ben si, c'est bon. Vous allez voir grâce à Ligori Lecomte dans un instant qui va nous donner plein de caractéristiques justement de ce légume qui non seulement est bon pour la santé, mais peut-être délicieux. On aura des recettes qu'on mettra d'ailleurs sur les réseaux sociaux de Nous voilà bien. Mais pour l'heure, c'est toute la vérité sur le bouillon cube avec Patricia Chiropoulos.
Dis la vérité. Dis la vérité.
Ah là là, et l'homme pâle et Aurel San, quand même, un samedi matin dans Nous voilà bien, moi je dis chapeau. On a réussi à trouver le prétexte quand même des bouillons cubes pour passer des musiques aussi qu'on aime. Le bouillon cube, c'est la star de votre enquête, Patricia Chiropoulos, dans 60 millions de consommateurs. Alors, on a compris que c'est tout petit, mais c'est trop salé, trop gras, mais aussi trop sucré. Que bio, pas bio, bon, allez, on va dire que le bio est un petit peu mieux, mais enfin, c'est quand même pas non plus top. Vous nous avez prononcé un mot tout à l'heure qui m'a fait peur, on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant, ce sont les additifs.
Ah oui, les additifs, oui. Alors là, on n'y échappe pas, hein, puisque c'est un produit vraiment, ce qu'on appelle les produits ultra transformés, donc il y en a dans quasiment tous les bouillons, hein, et aussi les fonds de veau, voilà. Bon, quand même, les bouillons de légumes, là, s'en sortent globalement mieux, puisqu'en général, là, dans nos panels, il y a un additif ou deux, pas plus. Principalement des colorants, hein, ça c'est les colorants.
À quoi ça sert?
Bah parce qu'il faut leur donner une petite couleur marron, un peu appétissante, puis qui peut évoquer, justement, notamment dans les bouillons de volaille, un petit peu la viande. Donc c'est indispensable, sinon ce serait blanchâtre, ça ne donnerait pas envie. Donc, principalement ça. Et en plus, dans les bouillons de volaille, on peut également trouver, ben, il y a des texturants, on peut trouver des exhausteurs de goût surtout, parce que ça ne suffit pas de mettre un quelques pourcentages de volaille. Il faut évidemment rajouter des exhausteurs de goût, comme le fameux glutamate dont on entend souvent parler. Voilà.
C'est tout à bon. D'accord.
Ben non, voilà, donc bon, je veux pas... Mais voilà, là encore, de temps à autre, pourquoi pas, hein, mais c'est vraiment...
C'est ça. Voilà. Comme d'habitude, quoi, en fait, il faut être dans la modération et ne pas... Non, mais en tout cas, ça nous aide quand même à surveiller notre, évidemment, notre consommation. Et je pensais, en vous écoutant, vous parliez des colorants. C'est vrai que moi, j'achète des bouillons cubes bio et pour le coup, j'ai toujours remarqué à quel point ils avaient une couleur un peu fade. Donc oui. Peut-être, effectivement, suis-je consommatrice de bouillons cubes qui n'ont pas, justement, cet additif et ces colorants.
Voilà, au moins un avantage du bio. Oui.
Voilà, exactement. La liste, elle continue de s'allonger parce qu'on trouve aussi des allergènes, c'est ça?
Et oui, alors donc quasiment là tous les produits. Alors de fait, on trouve des céleris, des traces d'œufs, de lait, de gluten, puisqu'il y a du blé aussi. Donc c'est vrai que quasiment, aucun bouillon n'échappe au moins aux traces allergènes. Donc pour les gens allergiques, effectivement, il faut être extrêmement vigilant.
Okay.
Ça c'est, et parfois il y en a même plusieurs. Hein, donc.
Non mais il faut même le savoir quand on cuisine pour quelqu'un qui vient dîner chez nous, quoi.
Hein, exactement. Oui. Donc voilà. Donc ce n'est pas anodin. Hein, quand on met un bouillon cube. Attention, on regarde la composition.
Très bien. Est-ce qu'on peut suivre aux allégations sur les emballages? Je pense à, par exemple, faible en matière grasse, sans additifs et compagnie, parce qu'on les trouve en plus sur les bouillons.
Oui. Ah bah ça, ils ne sont pas avares en allégations. Alors, certaines, comme l'allégation sans sel ou réduit en sel, celle-ci, elle est intéressante. Parce qu'on a vu, c'est extrêmement salé. Et nos analyses ont bien vérifié que celles qui sont allégées en sel le sont vraiment. Donc ça vaut le coup. En revanche, dégraisser, pas vraiment. Parce que autant... l'huile de palme, c'est ennuyeux, ça, il n'en faut pas. Par contre, il n'est quand même pas très riche en graisse. Donc, ce n'est pas dans ces produits-là où on aura un apport trop important de graisse. Donc, voilà. À part celle réduite en sel, c'est la seule valable.
Bon, très bien. Il y a bien des grands gagnants dans votre essai, quand même, pour nos auditeurs, qu'on est en train de déprimer, là.
oui, non, mais certains s'en sortent très bien. Donc, notamment, écoutez, dans les bouillons, ce sont deux bouillons volailles et légumes en bio. Donc, comme quoi, parce qu'on a apprécié, la sobriété, ils sont quand même relativement sobres, ils ne sont pas trop salés, ils ne contiennent pas d'huile de palme, donc ça existe.
Ok, d'accord. Donc, on vise en tout cas cela en particulier. En fait, quand je parle avec vous à chaque fois, je me dis que décoder les étiquettes, c'est un premier pas pour les consommateurs que nous sommes, en fait.
Ah oui, c'est vraiment indispensable et en plus, enfin, facile, pas toujours, mais en tout cas... Les fabricants ayant l'obligation d'afficher tous les ingrédients, déjà, ça vous donne vraiment une information, ne serait-ce que par la longueur de la liste. Et si vous voyez des E, voilà.
Non, mais il faudrait qu'en fait, on ait vraiment toute la liste de... Il faudrait qu'on ait une liste à portée de main et puis que l'on puisse faire cette démarche, effectivement, de regarder les étiquettes à chaque fois que l'on consomme.
Ah, oui.
Ou alors, on se balade avec 60 millions de consommateurs dans notre sac.
Oui, c'est une très bonne idée.
Exactement, parce que c'est actuellement en kiosque et que votre enquête est passionnante. Je vous remercie beaucoup, Patricia Chéropoulos, d'avoir accepté d'être avec nous en ce samedi matin. Vous aimez les brocolis? J'ai l'impression de poser des questions ce matin entre tu aimes les bouillons cubes. Vous aimez les brocolis, vous?
Oui, j'adore les brocolis.
Ah,
même brocolis vapeur, oui.
Ah ben voilà, écoutez, Ligorie Lecomte va nous aider justement à cuisiner autrement que le brocoli vapeur. On est deux, c'est super. Merci beaucoup Patricia Chéropoulos. À bientôt sur RTL.
Merci, au revoir.
On va manger des brocolis, Lili, brocolis, Lili, des brocolis, Lili.
Comment qu'on est content de manger des brocolis. Bonjour Ligorie Lecomte.
Bonjour Flavie.
Bienvenue. Ah, dites donc, vous nous mettez de bons poils, parce que le brocoli, quand même, ça nous donne envie. Le brocoli, c'est vrai que ça paraît pas glam. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que les légumes verts ont moins la cote que les autres. C'est vrai ou pas?
Oui, alors ça c'est un peu vrai, et figurez-vous qu'il y a quelques années, il y a une étude américaine qui a montré qu'en fait c'était un réflexe même archaïque chez l'homme, vraiment tout ce qui est couleur de vert sur les végétaux, ce serait un moyen de nous alerter des dangers, vous savez, archaïques, les épines, les baies toxiques, etc. Donc c'est pas forcément une affaire de goût, ça serait assez logique et ancré dans l'esprit humain, mais bon, ça veut pas dire qu'il faut lâcher l'affaire avec vos enfants, et puis une fois que ce cap-là sera passé, et qu'on aura corrigé tout ça, ça peut être très très bon.
Oui, j'avais entendu parler de cette étude, effectivement, alors que moi, il me faut du vert tout le temps, quoi. Enfin bon, voilà, je vous raconte ma vie, mais moi j'adore les légumes verts. Dites-moi, des brocolis, j'en consomme beaucoup. Il existe plusieurs variétés ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a des têtes un peu différentes.
Alors oui, il peut y avoir plusieurs variétés. Pour simplifier, moi je conseille de retenir vraiment deux variétés. Donc, une qui est plutôt ancestrale, une variété oubliée qui est le brocoli âgé, donc qui ressemble plutôt à des asperges, vous voyez, mais avec une fleur un peu plus importante au bout. Et puis l'autre, c'est une variété beaucoup plus commune, celle qu'on trouve vraiment partout et qu'on achète communément, ce qui s'appelle plutôt le chou brocoli, avec tous ses bouquets plus resserrés sur un même pied.
Et c'est quoi son intérêt nutritionnel au brocoli?
Alors, il y en a beaucoup, il faut le savoir, c'est un légume qui est très chargé en vitamine C. Donc là, on va en avoir besoin, hein, sur cette période-là un petit peu plus froide, des vitamines A, de la vitamine B9, plein de minéraux. Donc bon, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ça réduit essentiellement la fatigue, ça va réduire aussi certains cancers, et puis ça a quelques vertus antioxydantes quand vous le consommez cru notamment.
Et oui, dites-moi, je vais vous poser la question, parce que tout le monde me regarde en se disant, est-ce qu'elle va la poser? Mais ça fait un peu mal au ventre, ça fait péter le brocoli.
Alors, ça, c'est
ma question star quand même dans cette émission, mais je ne sais pas pourquoi on ne traite que des sujets comme ça. Mais non, mais c'est vrai.
Comme d'habitude, ouais, alors ça reste dans la famille du chou, donc ça peut ballonner légèrement. Après, je vous rassure, ce ne sera pas le festival de la trompette à l'arrière des pyjamas. Normalement, c'est censé être un petit peu plus léger que le chou. Il n'y a vraiment aucun souci.
Sortez les cuivres.
Voilà.
Quand on l'achète, comment on le choisit, le brocoli? Comment bien le choisir? Parce que moi, je regarde, vous savez, bon, cette fameuse tête, parfois, elle est un petit peu, on a l'impression qu'elle commence à s'abîmer, en fait, au niveau de la surface.
Voilà, un petit peu à jaunir. Voilà, il faut faire un petit peu attention. Normalement, c'est censé rester bien vert, presque un petit peu violet, parfois, des petits reflets bleus sur le dessus, sur les bouquets. Donc très facile, si vous avez la chance de l'acheter encore avec ses feuilles, il faut qu'elle soit bien verte.
Voilà.
La tige principale, forcément, elle doit être ferme, et puis ses bouquets bien resserrés, qui ne vont pas forcément à s'évanouir un petit peu une fois que vous l'avez sélectionnée.
D'accord, on en apprend plein de choses aujourd'hui, hein. La tige, les feuilles, c'est super, on va vous garder un petit peu si vous le voulez bien, Ligori Lecomte, parce qu'on a des questions à vous poser, parce qu'on se demande aussi comment le conserver. Tiens, j'ai une question à vous poser précise sur le sujet. Ce sera dans un instant sur RTL, puis vous allez nous donner des recettes qui vont nous faire aimer les brocolis. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on parle de brocoli. Alors, à table plus le mot brocoli, il y en a certains qui ont envie de partir en courant. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas entendu Ligori Lecomte. Vous êtes toujours avec nous jusqu'à 10h. Merci Ligori d'être là. On l'a compris il y a un instant, acheter un brocoli, c'est une belle tête avec une tige bien ferme et des petites feuilles encore fraîches et croquantes. Maintenant, comment le conserver? Je vais vous dire ce que je fais moi quand je rentre à la maison. En général, je le prépare directement, c'est-à-dire que je coupe les têtes, on va voir sur la queue, parfois j'en garde un petit peu, et je le mets sous vide. C'est une bonne idée ça?
Alors c'est une très très bonne idée.
Ah.
En fait, même au-delà de ça, vous pouvez même le garder logiquement 4 à 5 jours dans le bac à légumes. La petite astuce que je peux vous donner, donc soit vous le mettez sous vide, c'est très bien. Si vous n'avez pas de machine sous vide, vous pouvez aussi l'envelopper légèrement. Par contre, moi ce que je vous conseille, c'est de pas le rincer quand vous revenez du marché ou du magasin, parce que trop d'humidité, vous allez pouvoir commencer à voir apparaître tous des petits points noirs et quelques pourritures dessus, donc pas trop d'humidité quand vous le mettez au frigo.
D'accord, et 4-5 jours, hein, vous nous avez dit. De toute façon, on voit bien, c'est à la surface finalement du brocoli qu'on se rend compte qu'il est encore bon ou pas.
Et ben en fait, c'est ça. Si vous voyez qu'il commence à jaunir dans votre frigo, bon bah c'est que là, il faut décaler un petit peu vos menus et puis le préparer aujourd'hui.
Quoi. Ok, très bien. Ça peut se manger cru, le brocoli?
Alors tout à fait, on le disait juste avant, ça a des vertus antioxydantes quand vous mangez cru. Donc que ce soit en dips, vous savez, à l'apéro, avec une petite sauce au fromage blanc, en carpaccio avec une petite vinaigrette, ou même mixé, vous savez, ça vous fait une petite semoule pour faire comme un taboulé en fait, ou mélanger avec un taboulé. Donc oui, cru, ça se mange tout à fait.
Comme le chou-fleur en fait, moi je le râpe et c'est très très bon. Le pied,
exactement.
C'est normal que je garde le pied aussi un petit peu? Ça se mange?
Alors oui, ça se mange aussi. Souvent, les gens ont malheureusement tendance à le jeter, mais bon, voilà, c'est un moyen anti-gaspi, ça se mange. Alors, la base du pied est forcément beaucoup plus fibreuse que les petits bouquets. Donc là, il va falloir bien l'éplucher, enlever les parties un petit peu plus dures. Mais ensuite, voilà, ça peut se préparer tout à fait aussi. Et je vous dirais même en plus, c'est de le préparer dans une recette qui nécessite pas forcément une belle déco brocoli, donc dans tout ce qui est soupe, purée, quand ça va finir mixé, utiliser vraiment le pied du brocoli, ça marche très très bien.
D'accord. C'est difficile à cuire, Patricia Chiropoulos, elle nous disait qu'elle le faisait vapeur, hein, c'est ce que je fais aussi.
Alors vraiment, c'est pas difficile du tout à cuire. Alors à la vapeur, c'est vraiment très très bien parce que vous avez gardé un maximum de bienfaits, mais ça va se cuire à l'eau, ça peut se manger cru, on l'a dit, ça peut se jeter directement dans un wok et sauter à grande chaleur avec d'autres légumes, en gratin, enfin vraiment toutes les façons sont bonnes pour le préparer. Et alors, par contre, si vous voulez les garder, faire une pré-cuisson, comme pour tous les légumes verts, quand vous avez soit cuit à l'eau par exemple et plongé dans votre eau bouillante, ensuite un petit passage en eau glacée pour fixer le vert et la chlorophylle avec cette belle couleur.
Exactement. Et c'est vrai qu'en plus au niveau du goût, je trouve que c'est idiot, mais ça change quelque chose. Ça raffermit les chairs du brocoli que de les mettre dans de l'eau glacée après.
Exactement.
Donc tout à coup, ça devient quelque chose de plus agréable, je trouve, à déguster. Les enfants, bon, vous nous avez parlé de gratin, c'est quand même le truc qui nous permet d'en faire manger nos enfants, je dirais, peut-être plus facilement avec un peu de béchamel, peut-être un peu de comté râpé. Voilà. Mm-hmm. Quelle est la recette avec laquelle vous venez en ce samedi matin?
Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est un petit pastasotto au brocoli justement, alors au bleu d'Auvergne et aux noix.
Quesaco, pastasotto.
Alors en fait, ça va être très très facile, en plus assez amusant à faire avec les enfants. Ça va se passer comme un risotto, sauf que vous allez utiliser des pâtes cette fois-ci, type coquillettes. C'est assez rigolo à faire, et très facile et très rapide.
Alors, allons-y.
Alors on y va. Donc on l'a dit, le brocoli, la meilleure façon, je vais pas être très très original là-dessus. Moi, pour cette recette, je vous propose de le cuire à la vapeur. Vous coupez vos petits bouquets, vous faites cuire ça à la vapeur 5 à 8 minutes. Et puis, le temps que ça cuise, vous avez préparé le reste de la recette. Et puis, petit bonus, vous en gardez juste deux. Comme on disait tout à l'heure, on va les râper à la fin, on va les garder crus. Donc, on garde juste deux petits bouquets crus. Et le reste, hop, à la vapeur 5 à 8 minutes. Okay. Ensuite, dans une casserole, vous allez ciseler un oignon. Et puis, avec un fond d'huile d'olive et un petit peu de beurre, vous allez faire revenir cet oignon ciselé. Et puis, vos pâtes. Les pâtes, voilà, on va faire vraiment comme un risotto, on va faire nacrer un petit peu tout ça. Mmh. Ensuite, on va déglacer avec un petit peu de vin blanc. On va laisser évaporer ça, et puis on va rajouter une bonne louche de bouillon, soit de volaille, soit de légumes.
Attention, alors, donc, on en a parlé, mais on essaie.
Attention, voilà, soit un bio, ça. Soit un que vous avez fait vous-même maison.
Exactement.
Donc ça bien chaud, et vous allez laisser ça mijoter tout en mélangeant pendant environ 9 minutes, puis vous rajoutez un petit peu de bouillon, vraiment si besoin, si ça manque un petit peu. Et puis alors, une fois ces 9 minutes passées, que vos pâtes ont bien absorbé ce bouillon, vous allez pouvoir alors rajouter du bleu d'Auvergne en morceaux et bien mélanger. Alors si vous voulez mettre du gorgonzola ou un fromage qui vous tient un peu plus à cœur, pas de souci. Moi, le bleu d'Auvergne, je crois que ça marchait très très bien avec ça. Et puis, une fois que ça s'est bien mélangé, vous rajoutez vos petits bouquets de brocolis, vous rectifiez l'assaisonnement surtout, ça manquera sûrement un petit peu de poivre. Et puis, une fois que ça s'est servi dans vos petites assiettes, vous parsemez de noix concassées et puis vous râpez une belle fleur, un beau sommité de brocolis cru dessus. Et vous n'aurez plus qu'à déguster. C'est idéal pour cet automne, cet hiver. Ça sera hyper réconfortant, pardon, ça plaira, je pense, à toute la famille.
Du brocoli doudou, quoi. Et dites-moi, vous parliez de bouillon, alors vous avez entendu l'étude qu'a menée 60 millions de consommateurs avec Patricia Chiropoulos. Oui. Si je veux faire rapidement un bouillon maison, justement, qui ne soit pas trop salé, qu'est-ce que je peux faire?
Alors, très facile. Moi, la petite astuce que je peux vous donner, là, même zéro déchet, c'est le dimanche, je pense qu'on est beaucoup à acheter un petit poulet sur le marché. Vous récupérez la carcasse, surtout, c'est ce qu'on fait à la maison. En fait, je récupère la carcasse du poulet qu'on a mangé le dimanche midi. Vous y mettez un oignon, quelques légumes et vous mettez de l'eau à hauteur. Et puis vous laissez infuser ça et réduire ça pendant, je pense, au moins une heure et demie.
D'accord.
Et puis après, vous allez avoir ce fond de volaille qui sera réduit. Vous pouvez même le congeler en petites portions pour utiliser plusieurs fois après. Et puis dès que vous aurez une recette à faire, comme celle d'aujourd'hui, eh bien, vous ressortez votre petit bouillon qui aura réduit, qui sera concentré en goût, surtout fait maison.
Et combien de temps je peux le conserver, ce bouillon ?
Alors, si vous l'utilisez sur les jours qui viennent, vous pouvez même le garder comme ça au frigo. Mais si vous voulez le congeler, vous allez pouvoir le garder même plusieurs semaines, plusieurs mois au congélateur et ressortir vraiment la quantité de bouillon que vous avez besoin le jour J.
Et le truc super futé, c'est que je peux mettre mon bouillon dans un bac à glaçons.
Exactement, comme ça, même si vous voulez mettre juste dans la poêle pour infuser un petit peu quelques légumes ou faire revenir quelque chose, eh bien vous en mettrez juste un petit glaçon. Et puis si c'est une recette plus importante, vous en mettrez un petit peu plus.
Très bien. Et puis effectivement, on a de cesse de le dire, ça peut être bon, la cuisine sans sel, enfin pas complètement sans sel, Ligori, mais on peut saler modérément, ce qui nous permet à un moment donné aussi de profiter non seulement de bons petits plats, mais d'avoir en plus une alimentation plus équilibrée. Merci beaucoup, Ligori Lecomte. C'était super intéressant de vous recevoir aujourd'hui. Alors, je rappelle donc qu'on retrouve vos cuisines sur le site, hein, cuisineaz.com, vos recettes. Je rappelle que vous êtes auteur culinaire et que vous allez adorez venir ici dans cette émission sur RTL le samedi matin pour avoir
quelque chose me dit par rapport avec Philippe Catherine.
Et, ouais, et vous les réclamez vos bisous, hein.
Exactement, je viens toujours là pour ça.
Merci beaucoup. Et il vient quand même avec des brocolis pour avoir des bisous. Vous voyez comme il est fort.
Oui, voilà.
Il y en a qui viennent avec des fleurs ou des bonbons. Bah vous, c'est avec des brocolis. Merci beaucoup, Ligori Lecomte.
Merci
c'était
beaucoup.
Super intéressant. Des bisous pour vous tous, évidemment, parce que nous voilà bien, c'est déjà fini. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres en replay sur RTL.fr, en podcast sur les sites spécialisés. Et les recettes justement de Ligori, celles d'aujourd'hui, mais également celles de toutes les semaines précédentes, vous les retrouvez sur nos réseaux sociaux. Vous êtes nombreux d'ailleurs à vous rendre sur notre compte Instagram. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous lundi, évidemment, dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre. C'est le magazine du partage et de la réflexion. C'est du lundi au vendredi. C'est votre émission avec vous. Chaque jour, on discute de sujets qui nous interpelle, qui nous touche et nous indigne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre la semaine. Et puis sinon, si vous n'avez que le week-end, on sera là, évidemment, la semaine prochaine. Je suis l'amie du petit déjeuner, 9h15, dans Nous Voilà Bien. Prenez soin de vous, passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse.